Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast bimensuel sur la bande dessinée. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés, comme à notre habitude, par Thio, le barbu sans qui la bande dessinée ne serait pas ce qu'elle est. L'homme qui sait se frotter sur un micro comme personne. Vous pouvez entendre ce bruit délicat. Bonjour Thio.
Bonjour.
Je tenais d'abord à tous vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, de laisser des commentaires sur les différents forums, de devenir fan de notre groupe Facebook. Je rappellerai les adresses en fin d'émission, de me suivre sur Twitter, etc. Enfin, de nous encourager, ça fait toujours plaisir. Ça manque un petit peu à mon goût de commentaires et de notes sur iTunes. Sachez que ça nous donne de la visibilité et puis ça nous permet d'être vus et d'avoir un plus grand public. Petit erratum pour démarrer, Howard Chaykin n'est pas mort. Nous l'avons enterré un petit peu rapidement. En fait, on ne l'avait pas enterré, on n'était pas sûr, etc. Non, il est bien vivant, il a fait des choses récemment. On m'a susurré à l'oreille qu'il nous avait fait un Die Hard ou Year One qui nous raconte les origines de John McClane. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il a appris à perdre ses chaussures, comment il a appris à passer des Noëls pourris.
Et où est-ce qu'il a appris toutes ces petites phrases à la con qu'il a
Ho, ho, ho.
Yippie-kai pour vous.
Voilà. Je voulais juste aussi dire que j'avais tenté le coup du débat la dernière fois qui a complètement foiré.
Le sujet était pourri.
Peut-être que je vais retenter le coup là maintenant de suite. Peut-être que le sujet va plus vous tenter. C'est sur la BD numérique. Nous voyons de plus en plus ces choses venir. Au Salon du Livre cette année, on en a pas mal parlé. Le livre numérique commence à avoir des supports qui apparaissent, que ce soit le Kindle, l'iPad qui sort bientôt, les différents e-readers qui sont sur le marché. On commence à avoir des plateformes de vente qui sont intéressantes, je pense à Isneo, donc isneo.fr il me semble, qui a le soutien de pas mal d'éditeurs et donc un assez beau catalogue.
Et qui fonctionne comment ?
Qui fonctionne par de la location. On loue la BD.
C'est pourri.
Oui, bah ça... C'est assez étrange. C'est vrai que pour du dématérialisé, je trouve assez étrange de devoir avoir un système de location.
Ça veut dire en fait que tu t'achètes un truc, mais une fois que tu l'as lu et que tu as passé la date de péremption...
C'est comme le Vidéoclub, mais pour la BD.
Ouais.
Par contre, les tarifs étaient assez intéressants. Je ne les ai plus en tête. Je crois que c'était 2 ou 3 euros, un truc comme ça, la location à la semaine de la BD.
Là je suis pas fan.
Donc que pensez-vous de ces arrivées de BD numérique? Moi je suis un peu partagé, bon, parce que je suis un geek, j'aime tout ce qui est technologique, mais j'aime quand même bien avoir mon bouquin dans la main. Quand un livre numérique dans tes mains?
Déjà, il faudrait que j'achète le livre numérique en question, hein, c'est pas encore fait. Et puis je pense que tu vois, l'aspect papier de la chose est quand même trop primordial. Voilà. On va quand même continuer à sauver notre cher constructeur suédois de bibliothèque, continuer à renouveler nos belles forêts françaises avec de l'abattage de bois et puis des plantations derrière. Enfin bon. Voilà. Donc je pense qu'il faut conserver les livres et ce petit support papier. Tu vois l'odeur du livre quand tu l'ouvres,
oui,
le plaisir
bon.
De l'avoir dans les mains, de pouvoir le relire. Tu vois, tu le trimbales partout.
Enfin, je t'ai déjà entendu parler des problèmes d'espace vital.
Oui, non, je suis en train de les résoudre. Mais tu vois, par exemple, un truc tout bête, c'est que...
Tu vires ton voisin, tu t'installes chez lui.
Ça, c'est la voisine, mais j'attends qu'elle canne et qu'après, ouais, je rachète l'appart. Enfin bon, c'est un autre truc. Mais par exemple, là, tu pars en vacances.
Oui.
Ton bouquin, où que tu sois, tu peux le lire.
Mais ton bouquin électronique aussi, ils sont super transportables.
Oui, une fois que tu n'as plus de batterie, tu fais comment?
Tu le branches sur...
Tu te le mets derrière l'oreille et puis tu attends que ça passe. Hein, non, je veux dire, là, ton livre, tu as envie de le lire, tu peux le... Ah, c'est ça.
Oui, mais d'un autre côté, tu peux en transporter qu'un nombre limité si tu es un gros lecteur. Hein, t'es vite ennuyé.
3-4 à chaque fois que je pars en voyage.
Ouais. Ouais, mais pour la BD, c'est un autre problème. Imagine que tu ne veuilles lire que des BD pendant ton voyage. S'il te faut un deuxième sac exprès.
Non, je me fais engueuler par Garou.
Ah, tu te fais engueuler, oui, bon. D'accord. Et... Ça marche pour ce que je dirais la BD un peu collection, mais pour tout ce qu'on lit rapidement, moi je vois l'exemple, le manga par exemple, hein, qui en général se lit assez vite, qui est très consommable, certains comics, soyons clairs, lire du Spawn ou certains titres X-Men, machin chose, les derniers Ultimates un peu pourris qu'on a lus, je les ai dans ma bibliothèque, mais bon, ils prennent de la place et ils sont pas intéressants. Je les relirai peut-être un jour pour me dire, ah là là, qu'est-ce que c'était pourri à l'époque! Mais ça ira pas plus loin. Est-ce que tu penses que ce support-là permettrait pas de pouvoir se lire ces trucs vite fait qu'on n'a pas l'intention de garder de toute façon?
Peut-être pour des rééditions ou ouais, pour se débarrasser, on va dire, quand il y a plusieurs tomes de retard, mais ouais, je suis matérialiste. Laisse
Oui,
tomber.
parce que moi je vois, voilà, One Piece m'a l'air très intéressant, j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai pas accroché au démarrage, il y a 56 tomes, un truc dans le genre maintenant, ou 57. Déjà, je voudrais commencer One Piece, il faudrait que je trouve une nouvelle bibliothèque, parce que 56 tomes, même en manga, ça fait de la place. Voilà, me dire que je pourrais les lire vite fait, parce que ça vaut peut-être pas le coup de les garder, même si bon, tout le monde me dit que oui. Je sais pas. Imaginons que je vais lire Naruto. Alors là, par contre, beaucoup de gens me disent, ah Naruto, tu peux passer. Mais beaucoup de gens me disent aussi que c'est trop bien Naruto. Ah,
Ouais,
Naruto, ça poutre.
ça poutre. Ouais, Megaman 8 ans disparaît aussi.
T'es gamin de 8 ans disparaît. Oui, enfin d'un autre côté,
Mais ils ont 8 ans.
j'aimerais bien avoir l'intégrale de Dragon Ball. Ah, ah.
Ouais. Bon, on va passer le débat
Voilà.
peut-être, hein,
Donc,
mais.
laissez-nous des commentaires sur le blog, blog.jeudepied.org, dans le sujet de ce podcast. Ça nous fera plaisir. Nous allons attaquer les choses sérieuses. Nous avons un programme assez court. Nous attaquons le Easy Reading. Alors là, nous allons tout de suite entendre crier au scandale. Nous avons mis en Easy Reading Scott Pilgrim. Precious Little Life de Brian Lee O'Malley chez Milady. Pourquoi l'avoir mis en easy reading? Déjà, sûrement par côté de rebellitude, nous sommes ainsi. Car il a beau être très très sympa, tout le monde dit Ah, il faut l'avoir lu, il faut l'avoir lu, il faut l'avoir lu.
Eh bien, rien que pour ça, on le punit, on le met en easy reading.
Voilà, et pourtant, qu'est-ce que c'est pas mal. Alors que raconte ce Scott Pilgrim? Alors il faut savoir que Scott Pilgrim, c'est l'histoire d'un jeune, Scott, qui a un peu plus de la vingtaine, il a 24 ans, je crois, qui a une vie de base, hein, il est en coloc avec son pote homo, il fait pas grand-chose de sa vie, il a un groupe de musique qu'il définit lui-même comme un groupe de musique pourri, il sort avec une fille de 17 ans, tout le monde se fout un petit peu de sa gueule, parce que c'est un peu une gamine quand même, 17 ans, ça craint et tout. Mais lui, il est dans son petit confort sans se prendre la tête. Et puis, un jour, il rêve d'une fille qu'il croise un peu plus tard, Ramona Flowers, et c'est le coup de foudre. Le coup de foudre total. Et il décide de trouver un moyen de la séduire. Et c'est le début d'une grande n'importe quoi. Scott Pilgrim commence comme une bande dessinée indé intimiste, comme ont pu le faire beaucoup de Nord-Américains.
Ouais, ou un truc de Midinette aussi, qui commence. Voilà, style des années coup de cœur.
Ouais, mais moins midinette, c'est pas si fleur bleue que ça. Enfin, si, t'as le côté fleur bleue avec sa copine de 17 ans qui, elle, effectivement, quand tu la vois discuter, c'est toujours très drôle. Tous les discours qu'elle a, c'est « Ah eh oui, puis y a machin qui a dit ça, et puis y a bidule qui a machin chose. » Tu as du discours de gamine de 17 ans, et lui, il est...
On sera revenu au lycée, en fait,
Ouais,
c'est ça.
lui, il est à 20 km. Je trouvais que c'était un portrait assez juste du jeune paumé de 24 ans, en fait, qui suit la vie comme elle aime. Oui, quoi que...
Non, c'est le jeune paumé de 24 ans, c'est ça.
Oui,
Souvenir, souvenir, quoi.
on était étudiants, on foutait pas grand-chose, on faisait le minimum vital pour avoir nos examens et on n'attendait qu'une chose, c'est les teufs à venir.
Et septembre pour passer l'examen, de toute façon.
Oui, septembre pour les examens. Et donc, ça commence comme ça et puis ça part en vrille. Alors déjà, il rêve sur les autoroutes étoilées ou un truc dans le genre. De Ramona Flowers. Ils ont des dialogues assez surréalistes où le troisième mur est parfois brisé. Donc le troisième mur, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme un petit peu technique, c'est le mur qui, d'ailleurs c'est le quatrième, pardon.
En fait, tu comptes trois murs et c'est le
Ouais,
quatrième,
c'est le
c'est ça la
quatrième.
pièce.
C'est le mur qu'il y a devant l'écran, qu'il y a entre les personnages et nous. Quand les personnages s'adressent directement à nous, on dit qu'ils brisent le quatrième mur. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, mais on s'y retrouve. Et puis ça part en vrille parce qu'en fait, Scott apprend qu'il va devoir, pour réussir à sortir avec Ramona, battre dans des combats de musique ses sept ex-petits amis maléfiques. Et là,
Là, c'est un truc complètement barré, ouais, loufoque, quoi.
Le combat se fait en rime, sauf que Scott triche et ne fait pas une rime à un moment. C'est n'importe quoi. Et je suis resté sur le cul sur cette BD parce que tout le monde a dit « Oh, c'est génial, c'est magnifique !» Sauf que je pourrais même pas dire si c'est génial. Je peux pas dire que c'est mauvais parce que j'ai accroché, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Mais je suis totalement sur le cul. Voilà, je sais pas. C'est une bande dessinée très intéressante qu'il faut vraiment avoir lu, je pense, pour se faire sa propre idée.
Ouais. En fait, ça, tu me l'avais présenté comme le truc absolu à lire.
C'est ce que tout le monde disait. Voilà.
Donc je l'ai lu. C'est vrai qu'au début, tout le passage, fleur bleue, les années coup de cœur, hop, c'est bon, là tu suis le truc. Il y a des moments où tu souris, ça te fait.
Ouais, c'est quand que ça poutre, ouais, c'est ça.
petit revival, tu te rappelles un peu tes souvenirs, c'est top. Puis d'un coup, tu passes dans un mélange entre le collège foufoufou, Saint High School et Charmed, quoi.
C'est
complètement barré.
Moi, ça m'a rappelé du. Bon, alors, le format, c'est un format manga. Le dessin, c'est du noir et blanc. Le style se rapproche un peu du manga, avec un petit côté nord-américain quand même. Mais dès qu'on part dans le côté baston, on est vraiment dans le shonen. Le gars qui doit affronter un adversaire qui est plus fort que lui, qui utilise ses techniques de combat de la mort pour être plus fort. Donc le shonen, on est dans, je parlais de One Piece, Naruto, Dragon Ball tout à l'heure. C'est le même schéma. Mais on sent qu'il y a quelque chose de plus mature, j'ai l'impression, dans la façon dont c'est raconté. Peut-être parce qu'il y a ce côté fleur bleue à côté. C'est assez étrange. Ouais, Nathalie.
Mais en fait, là, ça se voit pas, mais tu vois, j'ai une moue très dubitative, en fait, pour les auditeurs, voilà. Ouais, je suis pas certain de... Avis réservé.
Donc, bon, en tout cas, une chose qui est bonne à savoir, c'est que il y aura 7 tomes et c'est tout. Le 7e sort bientôt, comme les 7 ennemis maléfiques, le 7e sort bientôt aux États-Unis. C'est le premier ouvrage de Brian Lee O'Malley, donc qui débute assez fort. Apparemment, il avait pas mal de trucs sur le web, il a un site qui est assez actif. L'édition est plutôt jolie, hein, c'est chez Milady. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Il va y avoir un film, la bande-annonce est totalement dans le ton. C'est avec Michael Cera qu'on a pu voir dans Juno, qui faisait le petit ami de la loose. De ce que j'ai vu de la bande-annonce, pendant les bastons, il y a des onomatopées à la Batman, la série télé, qui apparaissent au milieu. Exactement. J'ai reconnu la BD, et en film, ça a l'air trop de la balle. Franchement, ça a l'air du truc de malade. Ça a l'air vraiment d'être de la balle. Donc voilà pour Scott Pilgrim, ça coûte 6,99€. On va dire 7, hein, pour arrondir, chez Milady, format manga. Et pour que vous fassiez une petite idée, on va vous lire un petit extrait d'un dialogue entre Scott et Ramona. C'est parti. Alors, comment tu t'es retrouvé à Toronto ?
J'ai eu ce boulot à Amazon et ils avaient besoin de quelqu'un ici. Et Gideon dit toujours que Toronto est une super ville, alors...
Et qui c'est Gideon, ton petit ami ?
C'est un ami. Et toi, tu fais quoi ?
Je suis entre deux boulots.
Entre quoi et quoi ?
Mon dernier job est une très longue histoire, pleine de soupirs. On en parlera peut-être dans le prochain volume.
Moi, je veux même pas te parler de mon dernier job.
On verra peut-être dans le tome 3 pour ça. Eh bien, nous pouvons atteindre la rubrique presque 9, mais bon, on était presque dedans avec Scott Pilgrim, avec Le Banni.
Le Banni, qui est sorti donc en 2010 aux éditions Le Lombard. Donc un petit résumé de l'histoire. Un personnage tout seul s'occupe d'une jeune fille. On va dire se retrouve dans différents types d'aventures on part donc d'un événement. Il va être fait prisonnier et puis on va raconter toute l'histoire qui s'est passée avant cet événement-là, c'est-à-dire avant qu'il soit banni. Il était au service du roi et puis il a été banni. Je pense que vous avez dû sentir déjà juste la manière dont je présente l'histoire que c'est pas non plus un truc fantastique qui va révolutionner la bande dessinée.
Et t'as pas l'air très convaincu.
Et je suis peut-être pas très convaincant non plus, mais oui. Bon, voilà. C'est graphiquement, c'est joli, oui et non. Certaines scènes sont vraiment super. D'autres, par contre, au niveau couleur, voilà. C'est vraiment des atmosphères qui sont très différentes et ça, c'est pas très joyeux.
Ben, au niveau du dessin, moi, ce qui m'a marqué, c'est que je trouve que donc Tarum Bana, le dessinateur, a un style qui, dans tout ce qui est scène d'action, scène en mouvement, les choses un peu crades, où c'est violent, où il y a des projections, a un style superbe. Je veux dire, ses dessins sont d'un dynamisme pour tout ce qui est scène de mouvement. Mais alors, dès que ça se calme, ça devient plat, des traits limite grossiers, c'est de la couleur directe, mais voilà, flou. Un peu grossier, un peu flou. Toutes les scènes statiques ne passent pas. Et dès qu'on retourne dans quelque chose de brutal, de violent, on a quelque chose vraiment qui, pour le coup, passe beaucoup mieux. On a l'impression qu'il a essayé, dans les ambiances calmes, d'avoir un style plus doux, plus en douceur. Et je trouve que ça colle pas et que, comparé à ces scènes d'action qui sont géniales, quoi, je trouve, hein, moi, en tout cas, au niveau du trait, ça gâche un petit peu le plaisir qu'on peut y avoir. D'autant que le scénario, effectivement, est assez classique dans le fond.
Bon, enfin, faut voir ce que ça donne peut-être par la suite, mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est pas folichon, quoi.
Ouais, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu c'est un univers de low fantasy, comme on dit. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un petit peu de l'historique sans faire de l'historique. J'ai pas envie de me prendre la tête avec l'histoire. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais son univers manque un petit peu de fun, de trucs qui feraient y accrocher à cet univers. Il n'y a pas d'idée vraiment géniale. Alors apparemment, il y a une sorte d'ordre qui fait penser un peu au Bene Gesserit de Dune. On retrouve ces choses un petit peu, mais rien de transcendant. C'est un peu dommage. C'est pas mauvais, mais c'est très classique. Ça apporte pas grand-chose au genre. Faut voir comment ça va évoluer par la suite. Moi, en tout cas, je reste intrigué. Je veux savoir comment ça va continuer. Je vais continuer la série. Mais voilà, je suis pas totalement convaincu. Matt.
Ouais, non, pareil. Je suis en train de le refeuilleter. Bon, trop de. Un truc qui m'a choqué, par exemple, là, pour en revenir juste, c'est les couleurs. En fait, c'est vraiment. Il y a des pages entières qui sont d'un certain type de couleur. Puis on va rechanger de couleur. Alors, je suis d'accord que c'est pour. C'est en fonction de l'histoire.
Oui, c'est pour montrer les flashbacks.
C'est pour montrer les flashbacks. Mais même au niveau de l'ambiance, on va avoir des pages entières qui vont être dans une certaine teinte. Et puis on rechange, on va revenir dans une autre. Enfin, voilà. Je suis pas fan. Et puis pour l'affiche, ils auraient pu choisir autre chose.
La couverture. Ouais. Oui. Déjà, on peut noter, oui. Alors sur la première édition, il y a un cahier couleur à la fin, avec des illustrations préparatoires, quelques belles images. Et effectivement, il y a une des images qui est très très belle, qui aurait fait une meilleure couverture que celle actuellement, où on voit en gros plan le banni avec au fond une armée qui semble venir vers lui et lui un air résigné, très très belle. Moi je suis déçu parce que je trouve que l'illustrateur est très bon, mais pas tout le temps. Ça dépend. Il a vraiment, c'est rare que sur un dessinateur je puisse dire il est bon dans ça. Est mauvais dans tel autre domaine. Le scénario de Hensher n'est pas.
Peut-être que c'est la mise en place.
Ouais, que demande de confirmation. Ouais, sur les premiers tomes, c'est toujours un peu délicat.
À la suite.
Le banni, donc le poids de nos victoires chez Le Lombard, ça coûte 13,50€. Nous passons à la suite avec Britain et Associé de Anna Berry, sorti chez Casterman en 2009. C'est une bande dessinée qui date de 2008 par une jeune auteure anglaise qui va quand même très clairement vers la BD franco-belge au niveau du ton. C'est du polar. Nous suivons l'enquête de Britain, un détective privé qui était spécialisé dans les affaires de cœur, etc., mais qui a décidé d'arrêter. On le surnommait le bourreau des cœurs. Et il a décidé de ne plus s'occuper que.
Il a décidé de le faire avec son associé.
Oui, que les affaires criminelles. Et donc, pour passer à autre chose et pour vraiment rendre service aux gens plutôt que de briser les couples en mettant à jour des coucheries. Et son associé, c'est Brulaiti. Brulaiti, enfin, bon, c'est un sachet de thé. Son associé est un sachet de thé. Et là, on est dans un polar très classique, où bien sûr il a la femme qui lui demande de faire l'enquête pour lui. On est un peu dans du Chandler ou du Elroy, voilà, c'est fait l'enquête pour moi et tout. Il va faire son enquête et bien sûr il va révéler quelque chose qui est au-delà. En gros, on lui demande d'enquêter sur un suicide et la femme du suicidé pense que ce n'en est pas un. Et lui, bah, doit essayer de le prouver et part dans son enquête là-dessus. Avec son sachet de thé, toujours dans sa poche, ou posé sur une table pendant les fouilles,
qui l'accompagne. À qui il parle, et le sachet de thé lui parle aussi.
Lui répond. C'est très étrange dans le sens où c'est du polar classique, et ce sachet de thé a un petit côté burlesque, très bizarre. C'est très très bien écrit. Les dialogues sont vraiment... Enfin, les textes, pas les dialogues, c'est beaucoup de monologues intérieurs, sont vraiment... fuselés, c'est fin, la traduction n'y est sans doute pas pour rien, parce que on a vraiment un ton très agréable à lire. Voilà, parle-nous un peu du dessin, peut-être, Matt.
Comme ça, t'as vu en blanc. Moi, je trouve que c'était un dessin qui est très très agréable à voir. Bon, déjà, c'est un format qui est assez souple sur la BD elle-même.
Ouais, c'est la couverture souple.
Et voilà, des couleurs qui sont vraiment pastel. C'est très léger. Les personnages sont assez caricaturaux quand même.
Beaucoup de doux, oui, un style très doux.
Ouais. Et ça se lit vraiment très facilement. Ça fait très ambiance anglaise, quoi. On dirait un jour de pluie avec un thé à côté de toi, tu peux lire ça tranquille.
Moi, quelque chose que j'ai trouvé remarquable dans la narration, principalement, c'est que Anna Berry s'intéresse beaucoup au hors-champ. C'est-à-dire que on est rarement focalisé sur les personnes qui discutent. Elle s'intéresse souvent à ce qui se passe à côté, aux détails. Qui ne sont pas le centre du dialogue. Des gros plans qui peuvent paraître un peu étranges parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui vont révéler, créer une ambiance très particulière. Par contre, moi, j'ai trouvé l'intrigue assez complexe.
Assez complexe et même parfois un peu difficile à suivre, même au niveau de la résolution elle-même.
Le fait que, justement, on ne soit pas focalisé sur les personnages fait qu'ils sont... assez peu défini, on a du mal à savoir qui est qui, à retenir quel est quel personnage, on est obligé de revenir souvent là-dessus. Au niveau de la narration, c'est un peu complexe à ce niveau-là. Alors ça crée une ambiance, mais c'est vraiment clairement la BD qui mérite d'être relue pour mieux la saisir. On est un peu perdu, en tout cas moi j'ai été perdu sur ma première lecture, tout en succombant totalement à l'ambiance que j'ai trouvée délectable. Dernier mot.
Un dernier mot. Le sachet de thé est un peu dérangeant au début. Parce que ça te fait un peu revenir. Tu te poses la question, tu te dis, mais.
Il est fou.
J'ai bien compris ça. C'est bien au sachet de thé qu'il
entre. Oui, j'ai.
Mais je trouve que ça pose aussi la question du côté psychologique du détective. On se dit, est-ce qu'il a vraiment toute sa tête? Est-ce qu'il n'est pas un peu. Voilà. C'est toutes ces ambiances-là qui fait que, on se pose. On s'interroge sur beaucoup de choses tout au long de l'histoire, on va dire.
Alors, un reproche quand même, pour finir, je le trouve un peu cher. C'est 24 euros pour du couverture souple. Alors bon, il y a une centaine de pages.
Il est long quand même.
Il est long, il y a une centaine de pages. Mais 24 euros pour du couverture souple, quand on est habitué à, pour une centaine de pages, à un prix genre 11 euros pour du comics... tu vois, c'est pas la même qualité de papier, je l'ai trouvé un petit peu cher. Alors c'est pas énorme, mais si tu compares à d'autres bouquins qu'on va voir, on va parler de l'esprit perdu tout à l'heure, c'est 29 euros quoi.
Oui, mais le format est pas bon.
Ouais, on reviendra sur ce format plus tard.
Non, je dirais que ça les vaut, c'est Non, ça les vaut.
Voilà. Enfin, donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'Anna Berry est un auteur à suivre. Elle prépare un nouveau truc, une histoire de fantôme, apparemment. On verra ce que ça donnera. La suite.
Et donc, nous passons à la suite. Donc, la dernière fois, nous avions parlé donc plutôt le tome 1. Et bien, forcément, nous allons parler de plutôt le tome 2.
J'ai cru que tu allais dire le 3 ou un truc comme ça, histoire de nous perdre.
Non, c'est toujours de Naoki Urasawa sur une idée originale d'Osamu Tezuka. Je vais pas rappeler ce qu'ils ont déjà fait. Hein. Je pense que bon, on commence un peu à les connaître.
C'est... Référez-vous au podcast précédent.
Voilà. Donc l'histoire donc continue à avancer donc de cette enquête donc sur le monde des robots. Passage, je trouve très intéressant parce que on va donc là du coup avoir Astro, le petit robot qui rentre dans l'histoire, et on va aussi avoir donc le lien qu'ont tous les robots entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble à un moment? Et voilà, l'histoire commence, on va dire, l'histoire précédente. Les antécédents de l'histoire, voilà, je te cherche le mot. Les antécédents donc, commencent à être un peu plus clairs. Et on suit l'enquête petit à petit. Donc,
le thriller avance toujours en douceur. Hein. Bon, c'est aussi le style d'Urasawa. Hein. Il est toujours très posé. Il prend son temps, mais il pose bien les choses. Et puis, il y a toujours ce côté fable, petites histoires qui racontent un point de vue de l'intrigue générale. Mais là, c'est vrai qu'on avance quand même pas mal dans l'intrigue. On commence à savoir un peu ce qui se passe. On a toujours, bien sûr, le grand mystère sur qui ou quoi
détruit les robots.
Voilà, sur les robots qui ont une âme, même si apparemment c'est considéré comme tel. C'est... Comment dire ? Voilà, il y a une histoire de lutteur-robot qui est assez marrante. C'est deux lutteurs qui doivent s'affronter les uns les autres.
On a aussi une histoire avec l'enquêteur. On commence à se poser des questions aussi sur lui aussi, ses antécédents.
Oui, parce qu'apparemment, il s'est fait effacer la mémoire à un moment.
Il y a un petit bout qui manque et visiblement, ça a un rapport aussi avec d'autres choses. Enfin, ouais, bon.
C'est pas très clair. Ça annonce le meilleur, surtout que ça va être une série de Urasawa courte. Voilà, donc plutôt 6,99€ chez Kana. Le tome 2 nous confirme tout le bien que nous avons pensé du tome 1. La suite. Kick-Ass de Mark Millar et John Romita Jr. Kick-Ass, c'est un petit peu la chose à placer à côté de Scott Pilgrim dans un certain sens. Premièrement parce qu'il va bientôt y avoir un film dont les bandes-annonces sont très prometteuses. Et aussi parce que tout le monde a dit c'est le truc trop à lire, c'est trop de la balle. Par contre, chose un peu différente, sur internet j'ai vu aussi des c'est trop de la merde. Que dire par rapport à tous ces avis, ceux qui pensent que c'est super bien, ceux qui pensent que c'est super pas bien. Donc ce Kick-Ass à 11€ chez Panini Comics regroupe les 4 premiers tomes sur 8 de la série américaine et nous raconte l'histoire d'un jeune qui a une vie un peu pourrie. C'est un geek loser.
Il a une vie d'ado, en fait. Hein.
Ouais, mais en plus, c'est oui, d'ado dont t'as pas envie d'être le pote, quoi.
Ouais, mais c'est une vie d'ado. La vie d'ado est toujours pourrie, de toute façon.
Ouais. Et puis, un jour, pour essayer de mettre du sel dans sa vie, il se dit que, 6 mois, je devenais un super-héros. Alors, il s'achète une combi de plongée, il va dans la rue, et il essaye d'arrêter un crime, et il se fait péter la gueule.
Ouais, il s'est vraiment pété la gueule.
Démonter la gueule. Mais il y prend goût, il recommence, et un jour, il est filmé par des gens alors qu'il est en train d'à peu près s'en sortir. Hein. Bon, il s'en prend plein la gueule quand même, mais il s'en sort pas trop mal. Et ça passe sur YouTube, ça fait le tour du net, tout ce qu'on veut, et il devient célèbre, et il lance une mode de gens qui se mettent en super-héros dans la rue. On va commencer par les choses que moi je trouve de toute façon très bonnes. On peut difficilement dire autre chose. Le dessin. Je suis fan de Romita Jr.
Je valide aussi.
Je le trouve toujours aussi bon. Il a un sens de la narration super agréable, super fluide. Et pourtant, ce mec dessine depuis des années. Je ne sais pas comment il fait pour être toujours aussi moderne dans sa façon de travailler. John Romita Jr., pour ceux qui auraient oublié, est un dessinateur américain qui a bossé sur un nombre de choses phénoménales. On le retiendra principalement pour le travail qu'il a fait sur Daredevil, il y a pas mal d'années maintenant, qu'il a fait sur Spider-Man aussi, il a fait plusieurs passages, dont un de ses derniers passages, c'était avec au scénario, comment il s'appelle, ça y est, j'ai oublié son nom, Straczynski, au scénario. On l'a vu plus récemment encore sur The Eternals, le relancement des Éternels par Neil Gaiman au scénario. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Il n'y a pas à dire. Après, c'est une question de goût. Certains trouvent son trait un petit peu figé. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une dynamique, une humanité, des proportions qui sont réalistes et crédibles comparées à ce qu'on peut voir dans certains comics. J'adhère. Le scénario.
Le scénario, c'est...
Tout le monde dit que c'est révolutionnaire.
De quoi? De faire un super-héros qui n'est pas un super-héros?
Ouais.
Ah ouais, c'est révolutionnaire. Il n'y a pas un mec qui habite Gotham et...
Ouais, mais lui, il est balèze. Lui qui casse, c'est une merde.
Ah oui, parce qu'en fait, lui se fait casser la bouche, c'est vrai.
Ouais, c'est la différence.
C'est la différence.
Et il y a du sang. Ouais. C'est la différence aussi.
Comme si Batman se faisait pas casser la bouche aussi, pas froid.
Oui, enfin, il a fallu attendre Frank Miller pour voir Batman se faire casser la bouche. Hein.
Ouais, mais du coup, il se fait quand même casser la bouche. Mmh. Bon, ouais, niveau de scénario, moi, je trouve qu'il n'y a rien d'énorme. Voilà. Ça se lit bien, hein. Ça se lit bien, c'est agréable. Mais, bof, voilà. C'est, bon, les scènes de baston, par contre, soyons honnêtes, quand on dit qu'il en prend plein la gueule, il en prend vraiment plein la gueule.
Oui, alors il en rajoute des tonnes.
Je pense que humainement,
si les traits sont réalistes, les proportions des personnages sont réalistes, la quantité de sang qu'ils ont dans le corps, par contre, elle a quelque chose d'assez anormal.
C'est un peu gore quand même.
Voilà. Un autre truc, moi, c'est que j'ai l'impression qu'en 4 tomes, on a eu l'intro. En gros, on est à la moitié de l'histoire, on a eu l'intro. C'est...
Bah pour... Ça n'a pas avancé beaucoup, en fait.
Voilà. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de bien raconté, de bien dessiné. Mais je ne suis pas bluffé, je ne suis pas... Alors, je pense que pour quelqu'un qui débute les comics en commençant par du Kick-Ass, il va se dire « Waouh, c'est trop bien !» Pour un ado qui va peut-être se reconnaître dans ce jeune héros, bon, qui est une tête à claque quand même, hein, c'est un personnage auquel j'arrive pas vraiment tant que ça à m'attacher. Il n'est pas si sympathique que ça. Souvent, quand t'as un ado un peu loser, il trouve un moyen de te le rendre sympa. Là, le coup de « je me fais passer pour un PD pour me rapprocher de la fille qui me plaît », etc. Enfin, c'est un loser de chez loser, quoi. Qu'est-ce qu'il a de...
Rien.
Non, rien. Voilà, c'est... Il n'a pas de côté attachant. Il le dit lui-même, hein. Je pense que c'est voulu aussi dans le scénario. Hein. Il y a quelques scènes assez marrantes où il se pose la question de... Ma mère est morte, mais non, elle n'a pas été tuée par un criminel et je ne me suis pas mis sur son cadavre en faisant « Non, je te vengerai !» Voilà. Bref, Kick-Ass, c'est bien, mais pas aussi bien qu'on le dit. À lire tout de même, si vous aimez les comics, je pense que ça peut être intéressant de le lire peut-être avant de voir le film, pour se faire une autre idée. Est-ce qu'apparemment, toute la fin du film n'a rien à voir avec la fin du livre ? Qu'on attend, qui devrait sortir bientôt. De toute façon, je l'achèterai, ne serait-ce que pour le dessin de Romita Junior. Donc 11 € chez Panini Comics. Ça date de 2010.
Et donc, on passe à la suite. Donc, Granville de Brian Talbot, qui est paru chez Milady au prix de 15,90 €. Alors, bon, déjà, juste parlons un tout petit peu du livre. Moi, ça m'a fait quand même beaucoup penser au livre de Jules Verne.
La couverture, oui, un côté très Jules Verne, très, très la Gustave Doré, là, les voyages extraordinaires.
Donc l'histoire, en fait, c'est une... Bon, déjà, c'est une histoire anthropomorphique, donc que des animaux... Donc,
une histoire anthropomorphique, comme c'est joliment dit.
Donc un inspecteur de Scotland Yard qui s'appelle Le Brock, qui va enquêter justement sur un meurtre qui a eu lieu donc, en Angleterre, et il va donc devoir aller pour enquêter... savoir ce que cette personne a fait juste avant en France.
On est quand même dans un univers un peu particulier, en dehors que tous les personnages soient des animaux.
Un univers un petit peu particulier parce que, en fait, Napoléon a mieux fini que ce que le vrai a fini.
Ok, on est dans une uchronie. Napoléon est l'empereur d'Europe.
Et il a réussi à poutrer les Anglais.
Voire même à l'époque, peut-être du monde, parce qu'il me semble que les Anglais avaient des colonies tellement pas partout qu'il doit être l'empereur du monde.
Il est l'empereur du monde.
Oh, c'est Napoléon. Waouh, qu'il est balèze. Et donc, on a cette enquête avec ce héros qui est un blaireau, mais au sens animal du terme.
Oui, au sens animal, parce que c'est un blaireau balèze quand même.
Et j'ai été surpris par son côté balèze, justement, un peu bourrin en fait. Pas bourrin dans le sens il dégomme tout ce qui lui passe devant, mais. C'est une brute, quoi. C'est le gars, il est baraque, il est toujours avec une espèce d'arme. Il est toujours prêt à aller tarter de la gueule, en fait. Il a toujours son équipement minimum pour ça.
Ouais, mais c'est enfin voilà, c'est le détective de l'époque, quoi. Je veux dire,
tout en ayant son flegme britannique.
Oui, mais ils n'avaient pas les experts à l'époque. Je veux dire, c'est pas parce que tu mets un mec dans une pièce que tu lui dis attention, on a la preuve que tu as fait ça, et que le mec il passe de suite aux aveux. C'est pas vrai. Lui, il va voir l'indic. L'indic, il lui fait non, je te dirai rien. Il lui tarte la gueule, et après, là, l'indic dit des choses.
D'accord. Et toi, le scénario, donc, tu as accroché à fond?
Moi, j'ai beaucoup accroché au scénario. Ouais. Ensuite, j'ai beaucoup accroché aussi à toutes les références qu'utilise Brian Talbot dans le livre, parce qu'il va utiliser des personnages historiques. Il va utiliser aussi des peintures historiques, donc des peintures de David, donc de Napoléon.
Oui, les peintures d'époque.
Marianne. J'ai plus le titre. Marianne et la Victoire.
Oui, de la Croix.
De la Croix.
Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le de la Croix très connu.
Voilà, de la Croix, David. Enfin bon, et il va utiliser ces tableaux en les refaisant un petit peu. Il va faire des petites références.
Des références à des trucs plus récents aussi, plus contemporains.
Ouais. Des références aussi à Bécassine.
Oui.
Qui apparaît à un moment dans le truc. Enfin voilà, toute l'histoire elle-même, moi, ça m'a vraiment éclaté. Ça m'a fait penser, voilà, ça m'a fait vraiment penser, bon, à du Black Sad. Tu reviens à ça, mais vraiment bien. Vraiment,
moi, c'est histoire. Vraiment l'univers qui m'a vraiment plu. Ce côté, il y a un petit côté steampunk avec cette technologie un petit peu plus avancée. Il y a les robots, tout ça. On est dans du steampunk en fait. Hein. J'ai pas la peine de. C'est pas un côté, c'est du steampunk, mais du low steampunk, on pourrait dire. C'est pas des machines à vapeur magiques dans tous les sens, mais on a bien sûr les ballons, des sortes de prototypes de robots. Est-ce qu'on en est aux prototypes quand même seulement entre guillemets.
Ils font quand même pas mal de choses. Hein.
Oui, ils font pas mal de choses, mais ils sont pas présents au quotidien, je dirais. J'ai trouvé sympathique cette ambiance.
Il
ne
parle pas de robot, il parle d'automate.
D'automate, oui, c'était les termes d'époque. Par contre, quelque chose moi qui m'a énormément déçu, mais vraiment énormément déçu, c'est la colorisation. J'ai trouvé la colorisation trop informatique. On voit trop que c'est de la colorisation informatique. Ça m'a choqué. Et ça m'a perturbé tout le long de ma lecture. On voit trop que c'est une colorisation informatique. Je la trouve pas top. J'ai pas accroché du tout. Et ça m'a énormément gêné. J'aurais préféré le lire en noir et blanc, en fait.
Ouais, non, là, je suis. Ouais, non, ça m'a pas choqué plus que ça, moi. Non, j'ai trouvé que c'était non.
Là, bah, il y a beaucoup de dégradés, des effets de texture qui sont ajoutés, qui choquent par rapport à des dégradés d'aplat. Ça m'a vraiment. J'ai eu du mal à ce niveau-là. Voilà, c'est. La colorisation m'a pas branché du tout. On peut noter, en dehors de ce petit bémol, vu qu'on n'est pas d'accord, chacun y trouvera. Il trouvera ce qu'il a envie d'y trouver. J'ai du mal à finir mes phrases parfois. Souvent, chez Milady, on a de très très belles éditions avec du rédactionnel ajouté. Alors, je ne sais pas s'ils le font pour les premières éditions, si ça sera dans les tomes suivants. Mais il y a un petit cahier en fin d'album dans lequel Brian Talbot nous retrace ses influences. Ces pistes. Alors effectivement, on a Bécassine, mais on a aussi Spirou.
Exact, ouais. J'avoue.
On a aussi, alors plus récent, Omaha, qui est une BD érotique, anthropomorphique. Les affichistes, Mucha, etc. Enfin, beaucoup de références. Et le tout, déjà, ça a été fait exprès pour cette édition. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. J'ai l'impression que Brian Talbot parle au public français, notamment lorsqu'il cite les références aux choses françaises. Et ça fait vraiment une édition très intéressante parce qu'on a un très bon bonus.
Ouais, le bonus, ouais, c'est la liberté qui est dans le peuple.
Voilà, la liberté qui est dans le peuple. Voilà.
Il y aura un tome 2 et moi je l'achèterai avec beaucoup, beaucoup d'envie.
Voilà, moi j'espère que je serai moins rebuté par ces couleurs, c'est vraiment dommage. Donc en plus, ça coûte pas très cher, hein. Il est
15,90€,
cartonné, beaucoup de pages, je sais pas combien, grand format, chez Milady. Donc non, les pages sont pas numérotées comme souvent chez les comics, bon, il y a plus de 100 pages.
Hein. Un bon cadeau.
Un très bon cadeau. Nous en avons fini avec notre presque neuf, nous passons à notre rubrique l'intégrale. Sachez que, étant donné qu'on est devenu bimensuel, nous allons alterner les rubriques. Sur une quinzaine, nous mettrons les rubriques intégrale et online, et sur la quinzaine suivante, tu auras le rattrapage et le hors-sujet. Cette quinzaine, on aura l'intégrale et le online, et on attaque de suite avec l'intégrale. Et on parle de Messire Guillaume. Messire Guillaume, un intégrale qui est sorti chez Dupuis, qui coûte 29 euros. L'intégrale se nomme L'Esprit Perdu, c'est ce qui est écrit sur la couverture, donc si vous le cherchez en librairie, cherchez ça. C'est scénarisé par Gwen de Bonneval et dessiné par Mathieu Bonhomme. C'est dans un format à l'italienne, assez surprenant, c'est une réédition. Hein. C'était sorti dans trois albums classiques en couleur. Là, c'est une réédition en noir et blanc à l'italienne et c'est superbe.
Ouais. Ouais, non, oui. C'est beau. Pas très pratique à lire.
Voilà. On va commencer par le reproche de Matt. Toi, vas-y, ton reproche, Mathieu.
Le reproche, comme on va dire beaucoup de lecteurs, je pense que vous avez une lecture dans un endroit particulier de chez vous, c'est-à-dire donc vos toilettes. Et je peux vous dire que le format à l'italienne à lire aux toilettes, c'est pas pratique. Voilà, je suis désolé. Bon, c'est un reproche tout personnel, mais pour moi, c'est un bon critère aussi pour les livres parce qu'il faut que ce soit facile à lire.
Voilà. Bon, moi, ne lisant pas aux toilettes, je trouvais ça très très bien. Ce format ne m'a pas du tout gêné. Surtout que l'édition est très belle, le papier est très agréable au toucher.
Oui, mais il est gros, quoi. En format italien, c'est pas pratique à... Enfin, bon.
Nous allons parler un peu d'histoire quand même, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Guillaume est le fils d'un comte qui, en fait, a un petit peu laissé tomber son domaine pour se lancer dans des recherches alchimiques. Sauf que le père en question est mort, la mère classique doit se remarier avec un des nobles du coin qui est plein d'ambition. Lui, il n'est pas trop d'accord, ça le gonfle un peu, il aurait bien envie de suivre plutôt la voie de son père. D'autant que sa sœur, la veille du déménagement, vers leur nouveau domaine, sa sœur a disparu. Et comme il y a pas mal d'attaques de brigands en ce moment dans la région, tout le monde est très inquiet. Et donc, il part à la recherche de sa sœur et aussi à la recherche de son père, parce que sa sœur est partie à la recherche de son père car elle pense qu'il est encore vivant. Et là, on part dans une quête initiatique, une vraie quête initiatique classique avec le jeune qui découvre de nombreuses choses, qui va arriver dans un autre monde. On retrouve ce côté, enfin, il y a un petit peu le côté Alice au Pays des Merveilles. Mmh. Dans un autre monde, mais toujours bien documenté. Donc cet autre monde, c'est le royaume du prêtre Jean, qui est... en fait, c'est l'Afrique du Sud, telle que l'imaginaient les chrétiens européens à l'époque. J'avais vu déjà des gravures qui représentaient certains des monstres, entre guillemets, qui sont représentés dans le bouquin, dans des vieilles gravures. C'est des représentations assez fidèles. Il a vraiment repris une thématique au niveau du scénario. Enfin, on peut retrouver pas mal d'éléments dans quelque chose d'existant historiquement. Les gens croyaient vraiment que l'Afrique du Sud, y avait des hommes sans tête, que le prêtre Jean montait sur un griffon, ce genre de choses-là. Et c'est un livre, moi, que j'ai trouvé... Bon, le scénario m'a pris. Alors, c'est la quête initiatique. On ne sait pas trop où on va. On part un peu dans tous les sens. Il y a un petit côté onirique. Scénario, toi, t'es...
Je rejoins, on va dire, le côté onirique. Moi, je ne suis pas non plus rentré dedans. C'est bien, mais je ne suis pas rentré dedans pleinement.
Alors moi, j'ai été complètement pris. D'autant que voilà, le dessin exceptionnel. Alors, Mathieu Bonhomme est aussi connu pour son travail sur le Marquis d'Anaon. Et plein d'autres choses, mais Marquis d'Anaon qui est très bien, Fabien Vellman au scénario, ça a l'air super génial. Je les avais feuilletés un moment. Enfin bon. Le dessin, c'est du noir, en fait, c'est du crayonné ancré. Le crayonné est resté pour les valeurs, enfin, je suppose la technique, hein, j'étais pas derrière lui quand il a dessiné. Il a gardé son crayonné pour toutes les valeurs et il a ancré pour rehausser son trait. Le format à l'italienne en plus colle vachement bien, je trouve. À ça, on a des superbes images. Alors certes, il a dû apparemment, à ce que j'ai cru comprendre, retravailler certaines planches qui étaient faites pour du format classique. Ça fait plus de 275 pages. L'histoire est très sympa. Par contre, j'ai eu l'impression que c'était à suivre.
Ah bon ?
ça a l'air, je sais pas, moi j'ai eu cette impression que c'était à suivre, qu'il allait avoir une suite. Alors je sais pas si c'est parce que ça m'a tellement plu que j'ai pas eu envie que ça s'arrête. Et toi, ça t'a semblé complet ?
Ah, pour moi, je dirais, on arrive au bout. Voilà, le voyage initiatique est terminé, quoi. Il a fait tout ce qu'il avait à faire et
il est devenu un homme.
Il est devenu un homme, donc c'est fini, quoi.
Ouais. Moi, je sais pas. C'est aussi parce que j'ai vraiment adoré. J'ai eu envie qu'il y ait une suite. Moi, j'avais découvert la BD à l'origine en pré-publication dans Spirou il y a quelques années, les premiers tomes. Parce que les premiers tomes datent de 2006, hein, donc ça a quelques années maintenant. Mais bon, voilà. Donc, franchement, craquer pour cette édition à 29€. Je me souviens plus exactement de quoi ça ressemblait en couleur, mais alors en noir et blanc, c'est vraiment génial. Oui.
Je confirme. Oui.
C'est pas aussi emballé que moi, mais
c'est une bonne lecture. Voilà, mais ça m'a pas non plus. Là, d'un coup, je suis en train de réaliser. En fait, je me suis pas enflammé sur beaucoup de choses là sur la table.
Granville. Tu t'es enflammé sur Granville.
Ah, sur Granville, sur Britain aussi.
Oui.
Et plutôt, oui.
Bon.
Oula.
Eh bien, nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique, la rubrique online. Nous allons parler d'une BD en ligne que l'on trouve en français, même si c'est une traduction d'une bande dessinée américaine, qui s'appelle Le Meneur des Anneaux. Alors, qu'est-ce que Le Meneur des Anneaux ? Le Meneur des Anneaux, c'est une... on va simplifier. Au niveau du dessin, c'est très simple. C'est des photos du film Le Seigneur des Anneaux qui ont été montées au format bande dessinée. Et les dialogues ont été entièrement réécrits. Comme si c'était les dialogues d'une équipe de jeux de rôle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, je vous invite à faire des recherches. Allez voir sur le guide du rôliste galactique, le GROG, vous trouverez sans doute des infos intéressantes, ou sur la Fédération française de jeux de rôle. Pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un peu plus abordable, quoique je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Et que même sans connaître le jeu de rôle, on comprend bien
tout ce qui est blague et humour dessus, il n'y a pas de souci.
L'adaptation française est très bonne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références qui ont été complètement réécrites. On a des références à Kaamelott, on a des références à des choses bien de chez nous. Ce qui fait qu'on sent qu'il y a un vrai travail d'adaptation au niveau de l'humour. On s'y retrouve bien. Et ces personnages sont hallucinants. Le joueur qui joue Aragorn ne pense qu'à une chose, la meuf et la thune. C'est le seul truc qui l'intéresse. Le nain, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire du roleplay, parce que lui, dans son temps, c'est le vieux joueur qui joue depuis des années. Lui, dans son temps, le jeu de rôle, on le faisait bien et tout. Les autres n'ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est buter du monstre pour avoir des points d'expérience et des nouveaux équipements balèzes. Et c'est très bien écrit, c'est très drôle. Chaque planche est un sketch en soi, donc se lit assez facilement. Je regrette la mise à jour super pas fréquente. J'ai pas réussi non plus à trouver le flux RSS du Meneur des Anneaux, c'est-à-dire comme je vais pas un peu tous les jours voir s'il y a du neuf, j'aimerais bien avoir un moyen d'être alerté d'un nouvel épisode, ce qui est pas très pratique. L'adresse du Meneur des Anneaux, vous la trouverez sur le blog. Qu'as-tu, toi, pensé, vu que tu l'as lu, le Meneur des Anneaux ?
C'est une bonne lecture, on va dire un bon remake du Seigneur des Anneaux, avec des bonnes petites références. On se poil bien, voilà. C'est très agréable à lire. L'avantage, c'est que il y a la version anglaise, il y a la version française, et on lit un peu, on s'arrête, on revient, c'est une très bonne lecture online.
Et vous saurez enfin pourquoi le groupe s'est séparé. Pourquoi est-ce que les hobbits sont allés d'un côté pendant que les autres héros continuaient. La vraie raison. Et pourquoi est-ce que ça a bien fait chier les humains derrière. On a fini avec cette émission un peu plus courte. Pas beaucoup, mais un peu quand même. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. J'espère que nous aurons un son aussi bon que la dernière fois, si ce n'est mieux. Pour conclure, je vous dirais que n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes. Comme je disais, c'est ce qui nous permet d'être visible, c'est ce qui permet aux gens de savoir qu'on existe. C'est le meilleure chose que vous puissiez faire pour montrer que vous aimez ce qu'on fait. ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de dire du bien. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook à l'adresse facebook.com/oneaiclub en un seul mot. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est oneaipied. Et vous pouvez laisser des commentaires sur le blog, ça nous fera grandement plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Et bah, dans 15 jours.
Merci, à bientôt.
Au revoir.